9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Physiquement, on se fait une idée assez précise, généralement, du roi Louis-Philippe, cette grande allure, avec un visage qui ressemblait un peu à celui de Louis XIV, avec la perruque en moins et les rouflaquettes en plus, toujours ses grands uniformes à cordons rouges, pantalons garance. On connaît moins celle qui, pendant toutes ces années de la monarchie de Juillet, s'est tenue à ses côtés, celle qui, pendant longtemps, avait été duchesse d'Orléans. Alors elle, sur un plan physique, elle était assez longiligne, un peu nerveuse. Il faut l'imaginer avec ce nez aquilin, ses grands yeux délavés sous des cheveux blonds bouclés. C'était la reine Amélie. On la reconnaît de loin sur n'importe quel tableau. Elle est très reconnaissable et pour tout vous dire, elle m'est assez chère physiquement parce qu'elle ressemble à ma propre grand-mère. Cette reine Amélie avait un caractère trempé et vous allez voir à quel point, dans les dernières années, elle a joué un rôle non négligeable. Elle avait eu, après avoir été longtemps duchesse d'Orléans, elle était devenue reine des Français à la faveur des événements de l'été 1830, bien entendu. Et puis, en 1842, juillet 1842, elle avait eu la grande douleur de perdre Ferdinand Philippe, son fils aîné, et le duc d'Orléans, qui était tout l'espoir de la monarchie de Juillet. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le régime n'a pas été très heureux. Alors nous sommes le 16 avril 1846. La reine Marie-Amélie, le roi Louis-Philippe, deux de leurs filles sont en train de rentrer de promenade en forêt de Fontainebleau. Ils sont installés dans une espèce de grand char à bancs qu'on peut voir d'ailleurs au musée de Compiègne, dans cet extraordinaire musée de la voiture de Compiègne. Il y a un homme sur le bas-côté de la route qui se dirige vers le char royal. Il porte un fusil. Il a juste le temps de tirer à deux reprises en direction de la famille royale avant que des gardes, évidemment, ne se jettent sur lui pour mettre un terme à ses agissements. L'homme se trouvait tellement proche du char que la bourre de son fusil est tombée sur les genoux de la reine. L'agresseur, disons-le, était un piètre tireur. Il a manqué sa cible et dans cet intervalle de 10 secondes de panique, la reine Marie-Amélie a beaucoup étonné ses proches parce qu'elle a fait preuve d'un calme, d'un sang-froid incroyable. Le comte de Montalivet, qui était témoin de la scène, a confié sa stupéfaction à son ami Victor Hugo. Les choses vues de Victor Hugo sont un précieux témoignage sur les événements de cette monarchie de Juillet. La reine a peur d'un feu d'artifice. Elle met un pied à terre quand il faut passer un pont. Ou bien ce signe lorsque la voiture penche un peu trop. Mais lorsqu'on tire sur le roi et qu'elle est là, elle est tranquille. Le tireur donc a été arrêté. Il s'appelle Pierre Lecomte. Un homme de 48 ans, ancien garde général des forêts de Fontainebleau, qui se considérait victime d'une injustice parce qu'on lui avait pas accordé la capitalisation de sa retraite. Au vu du motif du tireur, on estime qu'il s'agit d'un cas isolé. Évidemment, on a tort. Certes, la France est relativement calme. Ça fait 6 ans que le roi n'avait pas été cible d'un attentat. Depuis 16 ans, la branche des Orléans règne donc sur la France. Depuis les Trois Glorieuses en 1830, la dynastie a l'air plutôt bien installée. Mais le couple royal a tort de se fier à cette apparente stabilité. Je cite Raphaël Dagen qui, chez Talendier, publie un livre intitulé « Marie-Amélie, la dernière reine ». Voilà ce qu'il nous dit. Le 29 juillet suivant, lors des festivités consacrées à l'anniversaire de la Révolution de 1830, un dénommé Joseph Henry tira à son tour 2 coups de feu en direction du balcon où se trouvait la famille royale. Marie-Amélie se précipita sur son mari pour le protéger, mais l'homme était un mauvais tireur et les balles n'atteignirent pas leur but. Louis-Philippe semblait décidément protéger les balles, comme si la reine était un ange gardien et ses prières efficaces. Une fois encore, le comportement de Marie-Amélie, qui, en temps normal, se révélait tellement discrète. Vous savez, c'était la parfaite épouse de la femme modèle discrète, effacée comme on pouvait l'imaginer et la souhaiter au XIXe siècle. Eh bien, une fois encore, son comportement s'est révélé à toute épreuve. Elle est d'une grande solidité, on peut l'affirmer. Les années à venir vont mettre, justement, cette solidité à l'épreuve.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Parce qu'à partir de 1846, les crises vont se succéder. Au mois de mai, Louis-Napoléon Bonaparte s'évade de la prison de Ham. Alors comme ça pourrait paraître anecdotique, seulement l'événement aura son importance. En 1846, c'est également le début d'une crise économique qui a été engendrée par de mauvaises récoltes. Ça a fait monter les prix, il y a eu de la spéculation. Cette crise économique très vite devient une crise sociale, avec beaucoup de chômage, avec des émeutes frumentaires, etc. Ça commence à aller mal dans le pays. Et les libéraux sont là, qui essaient de profiter, bien sûr, de ce mauvais contexte et qui s'organisent. Ils décident de mener une campagne de banquets dans tout le pays. Des réunions politiques étant interdites, on réalise des banquets pour évoquer les sujets politiques. C'est un moyen de détourner, de contourner la loi, si vous voulez. Le premier de ces banquets a lieu à Paris en juillet 47. 1200 personnes et bientôt dans toute la France. On va faire ce genre de grand banquet qu'on n'appelle pas encore républicain, mais l'esprit y est. Face à la multiplication de ces crises, la reine Marie-Amélie va tout faire pour essayer de tenir. Et notamment, elle joue un grand rôle dans l'unité de cette famille qui est nombreuse. Le roi et la reine ont eu 10 enfants, dont 8 ont atteint l'âge adulte. Le roi, à l'époque, a presque 75 ans. Il est convaincu de la justesse de ses positions. Ses enfants ne le sont pas tous. La reine Marie-Amélie est un peu au centre de tout ça. Et elle veille à la bonne entente familiale. Dans ce contexte difficile, un événement vient alourdir le moral du roi. Sa sœur Adélaïde, dont il était très proche, meurt le 31 décembre 47. Elle en est très affectée, bien sûr. Il faut dire que Madame Adélaïde jouait un rôle absolument essentiel auprès de Louis-Philippe. Mais au-delà des questions affectives, disons-le, c'est la première conseillère politique du régime qui s'éteint. Victor Hugo écrit que presque tous les matins, le roi avait une longue causerie, la plupart du temps politique, avec Madame Adélaïde. Il la consultait sur tout et ne faisait rien de très grave contre son avis. Certains prétendent que si elle avait vécu, la monarchie de Juillet aurait d'ailleurs sans doute connu un destin différent. C'est possible, on ne saurait jamais ça. À la mort de la sœur du roi, tous se demandent qui va la remplacer. Marie-Amélie pense que ce rôle de première conseillère lui revient de droit, mais disons-le, elle assiste impuissante à une plus grande solitude de son mari dans la pratique du pouvoir. L'un des fils du roi et de la reine, le prince de Joinville, écrit à l'un de ses frères: on nous mène à une révolution. Je suis troublé par les événements que je vois s'accumuler de tous les côtés. Je commence à m'alarmer sérieusement. Le roi est inflexible. Il n'écoute plus aucun avis. Il faut toujours que sa volonté l'emporte sur tout. Le roi est arrivé à cet âge où l'on n'accepte plus les observations. Il est habitué. Il aime à montrer que c'est lui qui gouverne. Son immense expérience, son courage, toutes ses grandes qualités font qu'il affronte le danger courageusement. Mais le danger n'en existe pas moins. Tu connais mon respect, mon affection pour notre père, mais il m'est impossible de ne pas regarder dans l'avenir. Il m'effraie un peu. Les mois qui vont suivre vont donner raison au prince de Joinville. La monarchie va bientôt s'effondrer comme un château de cartes en seulement quelques jours. Le bien dynamique final d'Harold en Italie d'Hector Berlioz. C'est Léonard Slatkin qui dirigeait l'Orchestre National de Lyon.
Vous écoutez Radio Classique.
Eh oui, nous observons les derniers mois, les derniers soubresauts de la monarchie de Juillet à travers les yeux de la reine Marie-Amélie. Alexis de Tocqueville, à la tribune de la Chambre, en janvier 48, avait dit « Nous dormons sur un volcan ». On est juste avant la révolution de février, et là, Marie-Amélie a le même sentiment. Je cite encore Raphaël Dargent dans cet ouvrage qu'il vient de consacrer à la dernière reine chez Talandier. « En dépit de ses efforts pour sauvegarder l'union de famille, la reine des Français devait constater que ceci n'était plus suffisant ». Impuissante à maintenir l'unité familiale, elle décida de faire valoir davantage ses avis politiques, ainsi qu'elle s'y était résolue depuis la disparition de Madame Adélaïde. Peut-être son mari l'écouterait-elle, peut-être ne serait-elle plus ce que, par amour pour lui et par modestie, elle avait trop souvent accepté d'être la mouche du coche. Au même moment, c'est à Naples que gronde la révolte, et à Palerme, et à Munich, c'est tout le début de ce qu'on va appeler le printemps des peuples, vous savez, qui en 48 va bouleverser l'ordre conservateur en Europe. Et ça inquiète beaucoup la reine, bien sûr. Le 20 février, Marie-Amélie demande à son mari si elle pourrait envoyer à Bruxelles ses diamants et un certain nombre de papiers, ce qui veut dire qu'elle n'a vraiment plus confiance dans l'avenir du régime. Et ça agace d'ailleurs beaucoup le roi, qui dit « Mais non, enfin, il n'en est même pas question, il refuse Louis-Philippe ». Au même moment, la campagne des banquets doit se terminer le 22 février 48 par une espèce de gigantesque rassemblement qui a été prévu à Paris, sauf que le président du Conseil interdit ce rassemblement. Le président du Conseil, c'est Guizot en personne, François Guizot. Pour tous les libéraux, Guizot est le symbole d'une politique conservatrice, bourgeoise, qui ne favorise que les intérêts d'argent. Évidemment, il est devenu l'ennemi public numéro un, disons-le. Les étudiants, les ouvriers vont se rassembler le 22, jour où le banquet devait avoir lieu. Ils sont rejoints par les gardes nationaux, et ça y est, de nouveau les barricades à travers Paris et les boutiques qu'on va piller. Et en cette journée, on peut suivre heure par heure les événements en lisant les messages télégraphiques que Marie-Amélie envoie au prince de Joinville, justement à son fils de Joinville. À 4 heures, elle écrit « On vient s'essayer aux barricades au coin de l'hôtel de la Marine. Elles ont été détruites. Cela chauffe. On va faire marcher les troupes. Que Dieu nous assiste. » Et à 5 heures, « Nous sommes entourés de barricades, mais nous nous défendrons. Nos vrais amis sont auprès de nous. Je vous ferai savoir par télégraphe si, comme je l'espère, nous avons le dessus. Dans tous les cas, priez pour votre mère. » Heureusement pour le couple royal, l'armée arrive à disperser la foule. Guizot présente sa démission que le roi refuse. « Qui sait où peut me mener la pente, où l'on veut que je me place ?» demande Louis-Philippe. « On est prêt de tomber quand on commence à descendre. Avec votre cabinet, je suis à l'abri des mauvais pas. » Seulement, la reine était persuadée de l'inverse. Elle, et pourtant, elle appréciait Guizot. Elle va décider de le dire clairement à son mari. Dans la matinée du 23 février, elle se rend dans le cabinet du roi avant l'heure de la visite habituelle de Guizot. Le comte de Montalivet encore nous dit ça dans ses mémoires. Personne n'assista à ce qui se passa alors entre le roi et la reine. Personne ne peut dire par quels arguments elle finit par pénétrer dans l'esprit de son royal époux. En effet, quand le roi vit arriver M. Guizot, il ne put lui cacher l'état de son esprit et l'émotion, l'anxiété qui lui avait inspiré les paroles de la reine. Dès les premiers mots, M. Guizot s'empressa de déclarer qu'une situation toute nouvelle en résultait. Dès lors, il regardait sa tâche comme finie et son ministère comme n'existant plus. Et dans ses propres mémoires, Guizot raconte un échange entre le roi et la reine, alors que le roi faisait part de sa peine à se séparer d'un ministère sur lequel il comptait beaucoup. Marie-Amélie lui dit « Tu ne peux pas dire cela, mon ami. Tu te dois à la France. Tu ne t'appartiens pas. » Ce à quoi le roi répond « C'est vrai, je suis plus malheureux que les ministres. Je ne puis pas donner ma démission. » Le renvoi de Guizot laisse présager que c'est la fin de l'orage, la crise va être passée, la réalité va être tout autre. Un incident va mettre le feu aux poudres dans l'après-midi du 23 février, alors que les choses avaient l'air de plutôt se calmer. Un coup de feu est tiré par un manifestant devant le ministère des Affaires étrangères, les soldats ripostent et on va relever des morts. On relève sur le carreau une vingtaine de corps et dans la nuit du 23 au 24 février, alors là c'est une espèce de floraison de barricades à travers Paris. Une partie de la garde nationale est en train de fraterniser avec les insurgés. Marie-Amélie, qui parvient à se faire entendre du roi, lui conseille de passer en revue les bataillons de la garde nationale qui sont massés dans la cour des Tuileries. Et encore une fois, Louis-Philippe va écouter sa femme et vers 11h du matin, on le voit qui traverse la cour des Tuileries. Seulement, face à l'animosité d'une partie de la garde, il préfère finalement rebrousser chemin. Il rentre dans le palais, il est complètement dérouté, Louis-Philippe, le vieux Louis-Philippe, devrais-je dire. Lorsque la reine apprend qu'Adolphe Thiers, qui est le nouveau président du Conseil, s'entretient avec son mari pour le pousser à abdiquer, elle se précipite de nouveau dans le cabinet. « Vous ne signerez pas, lui dit-elle. Vous n'abdiquerez pas, mon ami. Il faut mourir ici. » Incroyable le sang-froid, le courage de cette femme qui, dans une crise où tout le monde a l'air de perdre ses nerfs, garde les siens. Toutes les personnes présentes dans la dans la pièce sont interloqués. Comment ça, mourir ici ? Louis-Philippe se retire dans sa chambre. Il est accompagné par sa femme et deux de ses proches, deux de ses fils, le duc de Nemours et le duc de Montpensier. La décision est prise. Le roi va abdiquer. On peut dire que la dernière reine n'a pas réussi à convaincre son mari de se battre jusqu'au bout pour le trône. Non, la famille ne va pas mourir ici. La très célèbre ouverture du Freischütz de Karl Maria von Weber, interprétée par la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Carlos Kleiber. C'était un clin d'œil évidemment à la Tribune de l'Histoire et notamment à Alain Decaux et André Castelot.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Désormais, la décision est prise. Louis-Philippe abdique. Il cède la couronne à son petit-fils. 24 février 48, il écrit « J'abdique cette couronne que la voie nationale m'avait appelé à porter en faveur de mon petit-fils, le comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande tâche qui lui échoua aujourd'hui ?» Jusqu'au bout, vous avez compris que Marie-Amélie a essayé de le convaincre de ne pas céder. Mais une fois l'abdication signée, elle se tourne vers Thiers et vers Émile de Girardin. Elle dit « Messieurs, vous l'avez ?» Vous vous en repentirez. Vous voyez le caractère de cette femme. Je cite encore Raphaël d'Argent. La suite ne fut que le récit d'une fuite pénible, dont le roi considéra qu'elle était pire encore que celle de Charles X. Marie-Amélie revêtit une simple robe noire et couvrit son visage d'un voile noir. On quitta les Tuileries en toute hâte, d'abord vers Saint-Cloud, avant de faire un dernier arrêt à Dreux, où Marie-Amélie souhaitait se recueillir sur le tombeau de ses chers disparus. Devant celui du prince de Chartres, leur fils aîné, mort accidentellement en 1842, elle s'apitoya. « Sa mort a été notre ruine, dit-elle. Je sentais bien, quand il nous a été enlevé, que c'était pour le malheur de la France, mais aussi pour le nôtre. » Au même moment, les Tuileries sont saccagées, le trône de Louis-Philippe est amené place de la Bastille pour être brûlé au pied de la colonne de Juillet, cette même colonne qui avait été dressée pour célébrer les Trois Glorieuses qui avaient évidemment porté le roi sur le trône. Le couple royal devait, pour assurer sa sécurité, prendre une fausse identité, traverser la France, on rejoint les côtes normandes, c'est monsieur et madame Lebrun qui, sur les routes de Normandie, s'en vont vers Honfleur, et pour éviter d'être démasqués, ils décident carrément de se séparer et de se retrouver sur la côte. Et au petit matin du 26 février, les époux Lebrun se retrouvent donc à Honfleur. Impossible d'y embarquer pour l'Angleterre sans se faire remarquer, le roi décide de se rendre à Trouville, et Marie-Amélie reste quelques jours à Honfleur, ne pouvant que prier sur leur sort à tous deux et sur celui de la famille.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut l'imaginer dans sa chambre d'hôtel, cette ancienne reine des Français, accompagnée maintenant seulement d'un général et d'une femme de chambre. Elle repense aux événements des derniers jours, cette campagne normande qu'elle avait traversée était si calme, bien loin du tumulte parisien. Est-ce que l'abdication avait été trop hâtive ? Elle en était convaincue, mais de toute façon c'était trop tard maintenant. Maintenant, c'était une vie d'exil qui les attendait. Louis-Philippe est revenu chercher Marie-Amélie 3 jours plus tard. Ils sont partis en direction du Havre, où ils ont embarqué séparément sur un navire en direction de l'Angleterre. Je cite Victor Hugo dans « Chose vue ». Cependant, au dernier moment, un commissaire de police voulut faire du zèle. Il se présenta sur le bâtiment où était le roi et le visita du pont à la cale. Dans l'entrepont, il regardait beaucoup ce vieux monsieur et cette vieille dame qui étaient là, assis dans un coin et ayant l'air de veiller sur leur sac de nuit. Cependant, il ne s'en allait pas. Tout à coup, le capitaine tira sa montre et dit « Monsieur le commissaire de police, restez-vous ou partez-vous » « Pourquoi cette question ?» dit le commissaire. « C'est que si vous n'êtes pas à terre en France dans un quart d'heure, demain vous serez en Angleterre. » « Vous partez ? Ah, tout de suite !» Le commissaire de police prit le parti de déguerpir, fort mécontent, ayant vainement flairé une proie. Et voilà ce couple royal parti vers l'Angleterre. Ça va être... Évidemment, c'est fini, c'en est fini de la monarchie de Juillet, ce règne de 18 années qui avait fait de Marie-Amélie une reine des Français respectée, une reine peut-être de plus en plus respectée à mesure que les événements devenaient plus graves, que la situation politique la secouait davantage. On peut dire incontestablement, et c'est le sous-titre du livre de Raphaël d'Argent, on peut dire incontestablement que Marie-Amélie aura été la dernière reine en France.
Vous écoutez Radio Classique.
Grand merci à Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui et bonjour à Christian Morin qui vient de s'installer dans ce studio.
Bonjour mon cher Franck, vous étiez un petit peu en colère dans votre jeu de narrateur tout à l'heure.
Oui, je feignais la colère, c'est un peu mon rôle aussi.
Je l'ai compris, oui, bien sûr.
Ça n'avait rien contre vous, je vous rassure.
Ah, il faudrait quand même qu'on vous voie distiller vos textes chaque matin, c'est tout à fait remarquable, sans flagornerie aucune de ma part. Alors, je me suis penché en souvenir d'une émission que j'avais faite au musée du train à Mulhouse.
Ah, oui, avec... Magnifique endroit.
Avec Monsieur Breton, Guy Breton, très très bon ami, et il m'avait évoqué quelques histoires. Justement,
l'homme des amours de l'histoire.
Des amours de l'histoire, et justement, on avait fait une émission il y a quelques années sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme l'on dit, où je lui avais demandé, mais pourquoi ne pas faire des histoires d'humour de l'histoire de France, ce qu'il a fait, qu'il nous a dédié à Marie Gildas et à moi-même. Mais il m'avait raconté aussi que Marie-Amélie avait fait l'inauguration de la première ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye,
mais oui.
Pour une voie ferrée. Enfin, un train transportant des voyageurs. Et alors, c'était le 24 août 1837, le roi, lui, n'était pas venu. Il était venu en calèche, parce qu'on savait...
On se disait, si jamais il y a un problème, il ne faut pas que le roi soit là-dedans.
Mais alors, j'ai noté cette chose qui est extraordinaire. Parce qu'il fallait creuser un tunnel du côté de la colline de Monceau, le tunnel des Batignolles. Et alors, il y avait un journaliste qui notait, j'affirme sans hésiter, que dans ce passage subi, les personnes sujettes à la transpiration seront incommodées, qu'elles gagneront des fluxions de poitrine et des pleurésies, et un autre auteur mettait en garde, écoutez bien, l'inquiétude du train à l'époque, mais ça vous le savez mon cher Franck, les voyageurs contre il mettait en garde les voyageurs contre la fugace succession des images pouvant enflammer la rétine.
Magnifique, mais vous savez, il y a un très très beau chapitre dans les histoires de Paris, de Gosselin le Nôtre, qui raconte ce tout premier voyage sous le tunnel des Batignolles. Et il faut lire ça, c'est un bonheur. On éclate de rire à chaque paragraphe.
Alors, quand on pense que quelquefois on dépasse les 250 km à l'heure en TGV.
Largement, mais oui.
Moi d'ailleurs, je ne regarde plus le paysage, de peur de m'esquinter la rétine et de ne plus pouvoir vous voir, mon cher Franck. À demain matin, en tous les cas, merci beaucoup. Passez une excellente journée.
Bonne journée.
Ah non, attendez, vous allez rester avec nous.
Ah bon, d'accord.
Si vous avez deux petites.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco. Cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.